RCF. Bonjour à toutes et à tous. 40 ans de joie, 40 ans de joie qui se partagent, 40 ans que RCF, par le biais des ondes, accompagne les chercheurs et les chercheuses de sens, 40 ans d'annonce de l'évangile, 40 ans de cuménisme, d'info locale, de culture, d'économie, et tout cela parce qu'il y a 40 ans, des laïcs, des prêtres et des évêques se sont dit que l'ouverture de la bande FM était un formidable lieu d'évangélisation. Si on peut parfois regretter que l'Église soit en retard sur son temps, dit-on, on ne peut pas lui jeter la pierre en ce qui concerne les médias et la communication sociale. 1931 marque la création de Radio Vatican, le premier réseau de radio multilingue afin de propager la parole de Dieu à travers la planète. 1948, la création par les Dominicains du Jour du Seigneur. 1983, quelques diocèses comme Paris et Lyon créent leur radio diocésaine, donnant vie quelques années plus tard à RCF et 64 radios locales. 1999, création de KTO, et je ne parle pas bien évidemment des journaux papier tels que Le Pèlerin ou La Croix qui abordent tranquillement leur centenaire. Car contrairement à ce que l'on pense, l'Église a toujours eu à cœur de penser les communications sociale. Le Concile Vatican II y consacre un texte même, Inter Merifica, que je vous invite d'ailleurs à lire bien évidemment, et qui pose les principes de ce que doivent être des médias chrétiens dans leur objet, dans leur fonctionnement, dans leur éditorialité, et où il est rappelé, et je cite, que la valorisation des médias ne dépend pas seulement des professionnels, mais bien de toutes les communautés ecclésiales. Ce qui me permet de vous dire que tous vos dons sont les bienvenus. D'ailleurs, chaque année, au moment de la fête de Saint-François de Sales, le Saint-Siège publie un texte qui amène à réfléchir sur ce que nous, les médias, doivent être dans un monde en mutation. Benoît XVI avait en son temps publié une très belle réflexion sur la place des médias dans un monde médiatique bruyant, invitant ceux-ci à méditer sur la place du silence et de la prise de hauteur. Et que le monde digital n'était pas juste un moyen de communication dont il fallait s'emparer, mais bien d'un monde à évangéliser. En 2022, le pape François invitait lui à l'écoute qui, selon lui, conditionne un dialogue authentique. Alors, en ce 40e anniversaire, souhaitons à tous les acteurs de RCF d'être des bons grammairiens de l'écoute afin de donner au monde une parole vraie et audible, loin de toutes les cacophonies d'une société contemporaine en perte de repère, et remercier tous ceux et toutes celles qui depuis 40 ans œuvrent ou ont œuvré au déploiement de notre réseau, avec une pensée toute particulière à Emmanuel Jousse qui cède sa place à Philippe Lansac après 20 ans aux côtés du réseau. On lui doit beaucoup. Merci Emmanuel, bienvenue dans l'écho des solutions.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions. Pour fêter les 40 ans d'RCF, on a posé nos micros au Puy du Fou pour fêter ces 40 ans. Une journée de vendredi qui a été consacrée au réseau, où on a pu se retrouver, partager ensemble autour de conférenciers. Une journée de samedi où nous allons pouvoir partir à votre rencontre, vous les auditeurs qui êtes venus aussi passer un moment avec nous au Puy du Fou. Un numéro spécial donc enregistré depuis le centre des congrès du Puy du Fou, où nous nous retrouvons pour cette émission qui va être consacrée assez naturellement à l'entrepreneuriat, à la Vendée. La Vendée, terre d'entrepreneurs, c'est le thème de cette émission. On va essayer de décortiquer au travers de notre rencontre qu'est-ce qui fait que la Vendée est une terre d'entrepreneurs un peu particulière. Nous aurons avec nous Christophe Hogard, qui est le maire des Herbiers, Valérie Soulard, président du club Les Herbiers Entreprises, et puis Romain Burkili, directeur de la restauration de la Puy-Folaise, qui est l'organe qui vous permet d'être nourri quand vous venez au Puy du Fou. Et enfin, nos 7 minutes pour changer le monde, on partira à la rencontre d'une association que vous connaissez bien, qui est l'outil en main et qui a son siège aux Herbiers, un de ses sièges associatifs aux Herbiers, qui fête justement ses 10 ans. On retrouvera aussi Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et Maxime Dupont pour un max d'écho. Mais on commence tout de suite avec notre invité écho. Quoi de plus naturel que de recevoir celui qui nous reçoit? Je reçois donc Nicolas Devilliers, qui est le président du Grand Parc du Puy du Fou, de la société du Puy du Fou. On va voir ça avec lui d'ici quelques instants.
L'invité écho, Patrick Longchamp.
Voilà, Nicolas Devilliers, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, avec vous. On va évoquer justement le Puy du Fou. Hein, le Puy du Fou, 45 ans de cinécennie, presque 40 ans de création d'abord du Grand Parcours, puis désormais du Grand Parc. Est-ce que c'était une évidence, je vais commencer par une question un peu perso, mais est-ce que c'était une évidence quand vous étiez plus jeune que vous travailleriez au Puy du Fou et que vous en reprendriez les rênes à la suite de votre père qui a créé, qui a imaginé ce dans quoi nous sommes aujourd'hui?
Non, c'était absolument pas une évidence pour vous parler plus personnellement, comme vous l'avez dit. Non, c'était quelque chose qui était pour moi une passion. Le Puy du Fou était le lieu de ma passion, de mes amitiés aussi. Et puis les choses sont venues beaucoup plus tard, c'est-à-dire bien après l'adolescence, où il m'est apparu en effet que cette passion pouvait devenir un métier. Mmh. Et ça a été la grande chance de beaucoup d'entre nous, de toute la génération qui a pris les commandes dans les années 2000 et qui aujourd'hui m'entoure pour tracer le destin du Puy du Fou de demain.
Vous pensez que vous l'avez pris trop jeune ou que finalement c'était le bon âge pour prendre la succession, parce que ça fait quand même un petit nombre d'années maintenant que vous êtes à la tête du Puy du Fou?
Oui, mais en fait j'ai pris des responsabilités au Puy du Fou progressivement, ouais. Donc c'est toujours trop jeune quand on regarde ça avec le recul des années, mais en réalité non, je crois, ouais, que la force du Puy du Fou, c'est qu'on fait confiance aux gens très jeunes, et je ne suis pas une exception, puisque nous sommes très nombreux à avoir pris des responsabilités extrêmement jeunes. Ça fait que lorsque vous confiez à un jeune de 20 ans des responsabilités qui normalement échouent à quelqu'un de 40, eh bien cette personne progresse beaucoup plus vite, et ça, mmh, c'est notre force, c'est de garder cet influx de la jeunesse, l'audace de la jeunesse aussi. Vous savez, quand on est jeune, on a peur de rien, et je pense que c'est une force qui ensuite disparaît avec l'âge.
Et c'est ce que font d'ailleurs beaucoup d'entreprises familiale. On peut d'ailleurs parler d'entreprise familiale, même si c'est à la fois une entreprise, une association, les choses se mêlent. 2000 salariés, 4000 bénévoles, alors 2000 salariés quand on prend tous les saisonniers qui interviennent au Puy du Fou, plus de 4000 bénévoles, une différenciation, il y a les Puy-Follets, il y a les talents, pour justement ne pas mélanger les choses et en même temps on doit les faire vivre ensemble. Comment justement, quelle est l'intelligence du management pour faire vivre, et on sait combien dans la vie associative ça peut être compliqué, pour faire vivre des bénévoles et des salariés les uns avec les autres?
D'abord, il faut que tout le monde regarde dans la même direction, et ensuite il faut qu'on définisse bien les identités des uns et des autres. C'est pour ça que chez nous on ne dit jamais un bénévole mais un Puy-Follet, on ne dit jamais un salarié mais un talent. On considère la personne pour son identité, pour ce qu'elle apporte au Puy du Fou, et non pas pour un rapport pécuniaire avec l'aventure ou l'entreprise. Donc ça, c'est effectivement très important d'avoir pour chacun un territoire bien défini, mais en même temps une communauté de destin. Et c'est ça la force du Puy du Fou, c'est qu'en fait qu'on y soit bénévole, c'est-à-dire Puy-Follet, ou qu'on y soit salarié, c'est-à-dire talent, en réalité on porte la même œuvre, et on sait que nos visiteurs, eux, ne font pas la différence lorsqu'ils passent de l'un à l'autre, c'est-à-dire du parc à la cinécénie, et qu'à la fin, ils retiendront que leur séjour au Puy du Fou a été un émerveillement. Et c'est ça qui finalement préside et domine l'ensemble de notre philosophie et de la façon dont nous pensons notre communauté humaine.
Est-ce que ça veut dire qu'en termes de management, des bénévoles peuvent donner des ordres à des salariés et des salariés donner des ordres à des bénévoles? J'entends par ordre des ordres de mission, des ordres de travail. C'est-à-dire on est sous la responsabilité hiérarchique. Un salarié peut être sous la responsabilité hiérarchique d'un bénévole?
Absolument. Mais en fait, il y a dans votre question l'idée induite qu'un bénévole ne serait pas professionnel, et donc il est curieux qu'un non professionnel donne des ordres à un professionnel. En fait, non, chez nous, au Puy du Fou, quelqu'un qui est Puy-Follet et donc bénévole par nature est professionnel, non pas au sens du contrat, bien sûr, parce qu'il n'y en a pas, si ce n'est une sorte d'engagement moral, mais il n'y a pas de contrat de travail. Oui. En revanche, c'est au sens professionnel, au sens de l'exigence, du niveau de qualité de ce qu'on doit accomplir ici au Puy du Fou. Donc, le professionnalisme n'est pas l'apanage du salariat. Le professionnalisme, c'est quelque chose qu'on a dans le cœur, qui est finalement la passion qui brûle au fond de vous et qui vous permet de faire des choses de niveau mondial, parce que avec exigence. Donc, je crois que ce qui fait la différence n'est pas, encore une fois, dans le contrat de travail, il est dans le niveau de passion et de cœur que vous mettez dans votre engagement.
Et on le sait bien aujourd'hui combien le sens est important pour beaucoup de jeunes aujourd'hui. La question du sens prime parfois sur la question presque du salaire. N'exagérons pas forcément énormément, mais le Puy du Fou va fêter ses 40 ans d'ici 6 ans à peu près. Enfin, le Puy du Fou, le Grand Parc.
Disons que nous avons fêté nos 45 ans d'existence, puisque le Puy du Fou est né il y a 45 ans, et nous sommes dans la 45e année, en effet, cette année d'existence du Puy du Fou à travers la cinécénie, qui est notre premier spectacle. Et puis le parc a ouvert une bonne dizaine d'années après la naissance de la cinécénie, donc le parc a à peu près 35 ans lui aussi, même si tout ça a beaucoup évolué. Et en fait, dans l'histoire du Puy du Fou, vous savez, il y a des moments un peu clés dans lesquels on prend conscience du fait que ce sont les spectacles qui vont attirer un public, qui vont finalement finalement donné du sens à notre œuvre. Et ce sont des spectacles de jour qui sont comme les petits bébés de la cinécénie qui vont en fait faire notre succès.
Alors justement, la question était comment on arrive à dupliquer, parce que c'est un petit peu ça, le Puy du Fou s'exporte, le Grand Parc s'exporte, comment on arrive à dupliquer dans d'autres cultures ce qui est quelque chose finalement d'extrêmement enraciné dans un territoire et dans un terroir ?
En réalité, le modèle du Puy du Fou est un modèle artistique universel parce que nous parlons à l'âme humaine et que nous utilisons et nous faisons vibrer ce que Pagnol appelait les lieux communs de l'humanité, c'est-à-dire l'amour, l'espérance, la souffrance, la mort, tous ces lieux communs de l'humanité qui sont forcément des universels, des universaux, on pourrait dire, parce que en fait, les ingrédients qui font un spectacle du Puy du Fou ne sont pas spécialement ni vendéens ni français, ils sont tout simplement humains. Mais cela étant, tout ça a du sens parce que c'est extrêmement enraciné, vous l'avez dit. Donc c'est vrai que lorsque nous allons en Espagne, par exemple, faire Puy du Fou Espagna, c'est une aventure enracinée dans la culture, dans l'architecture, dans les personnages, dans l'histoire espagnole.
Et ça oblige aussi aux équipes à s'enraciner dans le territoire, c'est-à-dire qu'on va aussi chercher les talents, la culture, les gens de culture locale pour pouvoir construire quelque chose qui réponde vraiment à la fois à la technicité de ce qu'on peut vivre ici au Grand Parc en France et le déporter sur une autre culture.
Oui, c'est-à-dire que il faut transmettre l'esprit du Puy du Fou qui est un peu particulier, qui est un esprit de désintéressement, de gratuité qui nous vient de la maison mère du Puy du Fou qui est notre association toujours bénévole. Nous sommes 4300 bénévoles, vous l'avez mentionné. Donc c'est vrai que cet esprit de gratuité est très important, l'esprit d'entraide aussi, l'esprit de communauté au sens de l'esprit d'entraide. Et puis l'esprit d'exigence, l'esprit de passion, tout ce qui compose l'esprit du Puy du Fou qu'on appelle l'esprit Puy-Follet, on le transmet autant que cela se peut à nos équipes, tant en Espagne que dans d'autres pays.
Et vous dupliquez le système talent bénévole, je ne sais pas comment il s'appelle.
Non, lorsque nous sommes en Espagne ou aux Pays-Bas, par exemple, où nous avons aussi un spectacle, nous sommes uniquement sur un modèle de salariat classique, d'entreprise classique, parce qu'il serait très lourd et très compliqué de lancer un modèle qui soit bénévole. Et ce n'est pas notre objectif, il faut aussi qu'on soit solide sur nos appuis quand on se développe. Bien et sûr. Qu'on puisse le faire de façon extrêmement claire aussi dans les pays dans lesquels nous allons. Ça ne serait pas forcément compris qu'on vienne avec un modèle bénévole et donc ça nous paraît plus logique de le faire comme ça. Mais c'est vrai qu'en revanche, l'esprit du Puy du Fou souffle à Puy du Fou Espagna la même façon qu'il souffle en France.
Alors, une grosse diversification d'activités ces dernières années, particulièrement dans le domaine du cinéma. Le Puy du Fou devient Puy du Fou Studio, c'est-à-dire je suppose qu'on doit pouvoir aujourd'hui louer les décors du Puy du Fou, les villages, pour pouvoir créer des films, c'est ça l'idée ?
C'est notre intuition, c'est vraiment avec Puy du Fou Film de proposer des grands films qui demain, eh bien, viendront enrichir le cinéma français avec peut-être un cinéma qui nous manque un peu, qui est le cinéma épique, qui a du souffle, qui puise dans des histoires vraies, c'est-à-dire des figures héroïques françaises, hommes ou femmes, des histoires admirables, exemplaires qui méritent.
Qu'est-ce qui vous fait aller sur ce secteur d'activité qui, à part le fait du côté spectacle, hein, peut-être est-ce ça qui vous fait sortir du côté organisation parc à thème spectacle pour aller sur du cinéma?
Le métier de cinéma est un métier cousin du métier du spectacle. Finalement, c'est un autre langage d'expression. On s'exprime sur un écran, là où dans le spectacle, on s'exprime sur une scène. Mais au fond, on raconte une histoire qu'on met en scène, comme au théâtre, et donc comme une grande illusion d'optique qui est une fiction, mais qui nous embarque et qui, en tout cas au Puy du Fou, cherche à élever. Mmh. C'est-à-dire que notre idée est toujours de faire en sorte que vous sortiez du spectacle disons libéré d'une certaine façon de vos soucis ou d'une partie de vos soucis dans l'instant, le cœur léger, mais avec malgré tout un message qui comporte une certaine gravité sur ce qu'est la condition humaine. Et au fond, au Puy du Fou, eh bien, nous cherchons toujours à faire en sorte que vous regardiez vers les hauteurs en sortant des spectacles. C'est ça qui est important, c'est ça qui fait le sens du Puy du Fou.
Et est-ce qu'à un moment donné, on ne se pose pas la question de se dire finalement on a tout cet écosystème qui existe, on pérennise, on a toujours l'impression que vous êtes, alors je ne parle pas des spectacles parce que les spectacles sont normaux pour fidéliser la clientèle de devoir les renouveler, mais à un moment de se dire finalement on pérennise la structure et on s'arrête peut-être de développer.
Non, vous savez, une nation qui cesse de conquérir est une nation qui meurt. Et donc, ça s'applique de la même façon à toute aventure humaine, que ce soit une entreprise, une association ou quoi que ce soit. Donc, il faut avoir des rêves nouveaux et il faut continuer de les réaliser. Quand vous cessez d'avoir des rêves, ça veut dire que vous êtes devenu un vieillard. Donc, je crois vraiment que la jeunesse et le sang, d'une certaine façon, au sens poétique, qui irrigue les veines du Puy du Fou, c'est vraiment cette passion de créer. Cette passion qui consiste à repousser toujours les limites du possible, parce que créer, c'est se rebeller contre la réalité et finalement essayer de conquérir des nouveaux espaces artistiques qui restent à conquérir.
Alors cette année, la saison s'ouvre au Puy du Fou. Les grandes nouveautés, c'est quoi rapidement pour appâter le chaland jusqu'à vous ?
Eh bien, nous avons créé un nouveau spectacle qui s'appelle Le Mime et l'Étoile, qui est un spectacle qui va s'inspirer de l'histoire du cinéma dans ses premiers moments. Et nous plongeons au cœur d'un tournage de cinéma à la façon
de
Georges
Méliès. C'est la continuité avec le Puy du Fou, le studio Puy du Fou Film.
Alors c'est un clin d'œil, disons, au lancement de notre nouvelle activité de producteur de cinéma, en effet. Mais en tout cas, c'est surtout un univers qui est très riche, parce que c'est l'univers de la Belle Époque qui nous intéresse, qui est un univers qu'on n'avait pas dans les grands spectacles et qui est extrêmement inspirant. Et c'est une histoire d'amour que nous avons mis en scène. Et donc, c'est un spectacle très poétique et je peux déjà vous dire que c'est un spectacle qui est dans le top 3 des spectacles préférés de nos spectateurs depuis le début de saison.
Bah je n'en doute pas et j'ai hâte d'aller y jeter un coup d'œil. RCF, c'est la joie se partage, c'est son slogan. Ce sera ma dernière question, Nicolas Devilliers. Qu'est-ce qui vous met en joie ?
Avoir le sentiment de changer le monde. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant vient au Puy du Fou et qu'il, à travers nos spectacles, se découvre peut-être une ambition, un destin qui le tire vers le haut, eh bien, je me dis que le Puy du Fou a été utile, ne serait-ce qu'à cet enfant-là. Et alors, le Puy du Fou valait la peine d'exister.
Merci beaucoup, Nicolas Devilliers, d'avoir été notre invité écho de cette semaine. Nous, on continue tout de suite avec Pierre Collignon pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens.
Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
Et on retrouve Pierre Collignon. Bonjour Pierre.
Bonjour Patrick.
Alors après le discours du président de la République jeudi après-midi à l'Élysée, vous avez souhaité revenir sur la question de la réindustrialisation de la France qui fait l'objet de toutes les attentions depuis de nombreuses années et qui semble remporter quelques succès, Pierre.
Oui, les chiffres sont là pour le prouver et comme on dit, il ne faut pas bouder notre plaisir. Selon toutes les enquêtes qui paraissent depuis quelques semaines sur ce sujet, les fermetures définitives d'usines enregistrées depuis la crise financière de 2009, il y en a quand même eu 2498 usines qui ont été fermées en 13 ans, eh bien, ça pourrait d'une certaine manière s'annuler dans les prochaines années. Et la preuve en est que le nombre de créations nettes d'emplois dans l'industrie a quasiment atteint 37 000 en 2022, soit 5 000 de plus qu'en 2021, son plus haut niveau depuis cette fameuse crise financière des années 2008-2009.
Alors selon vous, Pierre, est-ce que c'est un effet durable ?
Ah, écoutez, je ne suis pas Cassandre, je peux me tromper, mais je crois qu'on peut l'espérer, parce que depuis 1980, je vous rappelle que la part de l'industrie dans le PIB a reculé de 10 points, s'établissant à 13% de la valeur ajoutée française en 2020. Alors bien sûr, le même phénomène a eu lieu chez nos voisins, hein, mais de manière moins prononcée, car l'industrie représente encore 25,5% du PIB en Allemagne et 16,1% en Espagne. Donc vous voyez, on en est quand même assez loin. Par ailleurs, on se souvient que la part de l'emploi industriel en France est passée de 25% de l'emploi total en 1974 à 10%. Et c'est probablement la raison pour laquelle, je crois, les responsables politiques ont qualifié la situation de critique à plusieurs occasions et que le président de la République, M. Macron, veut en faire une priorité.
Alors selon vous, comment est-ce que tout cela peut changer ?
En plus de toutes les mesures financières ou techniques, il y a, je crois, un effort de formation qui passe par un changement des mentalités. C'est un peu curieux, par exemple, de voir des promotions entières d'étudiants de grandes écoles, d'ingénieurs s'orienter vers la finance ou le conseil. Comme le disait il y a encore peu de temps Pierre Musso, quand on pense industrie en France, on pense Germinal, conditions de travail déplorables, exploitation. Et c'est sûr qu'avec un tel imaginaire en tête, on a considérer chez nous qu'il était souhaitable que les emplois industriels diminuent et qu'on les remplace par des emplois de service. Il faut donc changer de mentalité.
Alors, changer de mentalité, c'est bien, mais quelles sont effectivement les tendances qui se dessinent ?
Pour réussir la réindustrialisation de notre pays, je crois qu'il faut une action puissante et constante avec une ambition forte et une vision. La fameuse BPI qui vient de sortir un rapport via son observatoire fait état de très bons résultats des jeunes pousses, vous savez ce qu'on appelle les start-up et les PME industrielles françaises, d'où une stratégie qui doit consister à aider les entreprises industrielles à résister dans un contexte qui n'est quand même pas un contexte facile, à se développer, à s'internationaliser, à accompagner leur transition environnementale, digitale, vers plus d'innovation et à fonder l'industrie de demain en accompagnant les start-up et les PME industrielles. Mais cet effort doit se déployer dans toutes les régions car il faut absolument stopper le décrochage de nombreux territoires qui sont aujourd'hui laissés pour compte. Voilà, l'enjeu est donc essentiel. Il doit se faire, bien sûr, en lien avec les chefs d'entreprise. Et je peux vous dire que les entrepreneurs chrétiens, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens comptent bien y prendre leur part.
Bien, écoutez, merci beaucoup Pierre. Parfaite introduction à notre dossier, puisque aujourd'hui nous sommes en Vendée et qu'avec nos invités, nous allons essayer de comprendre ce que ça veut dire que d'entreprendre à la Vendéenne et surtout comment un territoire se développe économiquement. Eh bien, on va justement interroger le maire des Herbiers, Christophe Hogard, sur cette question de la réindustrialisation.
Il y a beaucoup de choses à nous apprendre, je suis sûr.
Absolument. Merci beaucoup Pierre. On fait une pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après.
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
C'était Daft Punk sur RCF, on ne pouvait pas passer à côté puisqu'ils fêtent cette semaine les 10 ans de leur album cultissime Et nous, on ouvre tout de suite le dossier de l'écho des solutions. On se pose la question, la Vendée est terre d'entrepreneurs, point d'interrogation. Certains m'ont même dit qu'il fallait enlever le point d'interrogation. Et ben, c'est ce que je vais voir avec tous nos invités du dossier de l'écho des solutions. Allez, on les retrouve tout de suite depuis le Puy du Fou, où nous sommes depuis le début de cette émission.
L'écho des solutions, Patrick Longchamp.
Voilà, il est donc temps d'ouvrir notre dossier de l'écho des solutions de cette semaine avec nos invités. Je vous les présente rapidement, je vous les ai cités tout à l'heure. Tout d'abord, le maire des Herbiers, de la communauté de communes du pays des Herbiers, Christophe Hogard. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors rapprochez un petit peu votre micro pour qu'on vous entende un petit peu mieux. Voilà, très bien. À ma gauche, j'ai la joie d'avoir Valérie Soulard, président du Club du Pays des Herbiers, le club d'entreprise du Pays des Herbiers. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Romain Burkili, vous êtes vous directeur de la restauration de la Puy-Folaise de restauration. Bonjour Romain.
Bonjour.
Avec vous, on évoquera justement ce qui se passe dans nos assiettes au Puy du Fou, mais aussi en quoi ça impacte économiquement le territoire et pas que. On va peut-être commencer avec vous, monsieur le maire, si vous voulez bien. Alors je disais, la Vendée des terres d'entrepreneurs. Quand on regarde l'étude économique, et on en parlera un petit peu avec vous Valérie, on s'aperçoit que le pays des Herbiers est assez comblé finalement en termes de dotation d'entreprises, de dotation d'emploi, et que la problématique elle est plus au niveau de l'emploi qu'à d'autres niveaux. Pourquoi est-ce que finalement vous avez le sentiment que la Vendée est une terre d'entreprises et d'entrepreneuriat ?
En fait, le pays des Herbiers, la Vendée en général, c'est une terre qui n'attend pas que les choses viennent tout cru. En fait, c'est d'abord un état d'esprit, en fait, la Vendée. C'est-à-dire qu'il voilà, y a peut-être une histoire derrière, évidemment. Il y a une culture générale qui est partagée, qui fait qu'en fait, au pays des Herbiers, en Vendée, bien, on a tendance à avoir... à cultiver des valeurs communes. Ces valeurs communes, c'est celle de l'autonomie. Voilà, on essaye de faire les choses nous-mêmes. Hein. Il ne s'agit pas de faire de l'indépendance, mais d'abord faire de l'autonomie et puis de la solidarité, parce que autour de cette dynamique qui est la nôtre, eh bien, on se serre les coudes. On essaye de faire en sorte que la solidarité se fasse en circuit court. Voilà, si j'ose dire.
La solidarité en circuit court, c'est joli ça.
C'est ça. Et c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est de très concret. On a vu des beaux exemples en Vendée. Ouais. Et puis surtout, on a le goût de l'effort. Voilà, ouais. On aime les défis, on aime faire des choses ensemble. Donc oui, c'est une terre d'entrepreneurs parce que c'est une terre d'entreprise parce qu'il y a d'abord un état d'esprit qui est fragile et qu'il faut entretenir, qu'il faut nourrir et qui repose évidemment sur, voilà, sur des valeurs communes.
Valérie Soulard, vous avez publié, enfin vous avez fait une étude avec le réseau d'entrepreneurs que vous présidez. Je donne quelques chiffres. Hein, l'activité économique des Herbiers, c'est 78,8% des emplois, un taux d'activité élevé de 96,5%, un taux de chômage de 3,5%. Vous, en tant qu'entrepreneur dans le réseau d'entreprise, est-ce que la première raison aujourd'hui du travail que vous avez fait, c'est attirer encore des talents dans les entreprises pour éviter que ce plein emploi ne devienne une récession?
Effectivement, on est un peu victime de notre succès, hein, parce qu'aujourd'hui, avec 3,4% de chômage, eh bien, les nouveaux talents sont rares. Donc effectivement, notre objectif, nous, au sein des entreprises, c'est d'essayer d'aller en recruter. Alors déjà, aussi, tenter de remettre à l'emploi ces 3,4% de chômeurs, hein, parce que même si c'est 3,4%, il en reste encore un petit peu. Et pour ça, on a des opérations qu'on a menées aussi avec la collectivité. On a fait, par exemple, au mois de novembre, un salon XXL. C'est au mois de septembre, pardon. Un salon de l'emploi XXL où on a proposé presque 1500 emplois pour voir sur le bassin des Herbiers. Voilà un des exemples.
Et combien ont été pourvus ?
30% à peu près.
30%. Donc ça veut dire qu'il y a encore énormément d'emplois à pourvoir sur votre territoire ?
Effectivement, aujourd'hui, c'est une des problématiques de notre territoire, le manque de main-d'œuvre, mais qui était aussi lié à un manque de logement. Parce que l'un va sans l'autre. Parce qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est presque au plein emploi, on essaye d'attirer nos futurs talents de régions extérieures. Et chaque aujourd'hui employeur ou entreprise essaie de travailler sa marque employeur justement pour essayer d'être le plus joli possible.
Romain, je vous voyais opiner du chef, parce que quand on sait qu'on travaille quand on dit qu'on est directeur de la restauration et qu'on sait aujourd'hui la difficulté du difficulté d'emploi peut-être dans le secteur industriel, mais alors dans le domaine de la restauration, on sait que c'est encore plus compliqué parce que le confinement est passé par là et les gens se sont dit finalement on peut peut-être faire mieux ailleurs avec moins de contraintes.
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en effet, globalement et nationalement, il y a des problématiques dans la restauration. Elles sont réelles aussi chez nous, mais non pas à cause d'un turnover important, mais par rapport à une croissance réelle d'un besoin que nous avons d'année en année eu égard à la croissance du Puy du Fou. On met énormément de choses en place pour, comme vous le disiez précédemment, attirer des talents qui peuvent venir de tout le territoire national et pas uniquement en Vendée. Ça passe par le logement, ça passe par les transports, ça passe par aussi, pour moi, en restauration, une organisation différente du travail.
Alors justement, quand on s'appelle le Puy du Fou, on peut être un peu plus attractif ou pas?
Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. On peut être plus attractif pour par le fait de travailler au Puy du Fou, parce que c'est une joie de pouvoir travailler et faire une saison au Puy du Fou. Et c'est une expérience formidable. On ne ressort pas d'une saison au Puy du Fou comme quand on est rentré.
Alors justement, monsieur le maire, comment on devient attractif, un territoire attractif? Je me souviens, il y a quelques temps, quelques années même, j'étais à Pouzauges chez Fleury Michon, qui est quand même un des rares des grosses entreprises mondiales de l'agroalimentaire à avoir encore son siège national à Pouzauges, même s'il y a quelques bureaux à Paris. Le siège reste à Pouzauges et les talents, il faut les faire venir à Pouzauges. Comment on devient attractif pour venir travailler aux Herbiers? Et encore, les Herbiers, on n'est pas loin de grosses villes.
Alors, ça va paraître un peu prétentieux, mais en fait, on n'a pas de problème d'attractivité. Ouais. On a un problème d'accueil.
C'est un problème de logement, en fait, aujourd'hui?
On est attractif. Tout le monde sait que nous avons effectivement un taux de chômage
extrêmement bas,
qu'on a une qualité de vie qui est réelle. En plus, on a la chance d'avoir non pas une filière économique, mais une diversité, une complémentarité qui est extrêmement riche et enviée. Voilà, puis la Vendée donne envie, les Herbiers connus pour plein d'autres choses aussi, des questions sportives parfois d'ailleurs, mais la vraie question, c'est pas l'attractivité, c'est l'accueil en fait et le développement. Et donc nos enjeux, on a plusieurs enjeux. Alors Valérie l'a dit tout à l'heure, on a l'enjeu de l'habitat bien sûr. On a une croissance économique qui est extrêmement forte et qui est plus forte que notre croissance démographique. C'est structurel chez nous. C'est ce qui fait que la capitale économique du Bocage, c'est les Herbiers. On a 52% de nos salariés, des salariés qui travaillent au Pays des Herbiers, qui n'habitent pas le Pays des Herbiers.
Alors, pour des questions de logement, parce qu'ils n'en trouvent pas, ou parce qu'on est chauvin et qu'on reste dans son village?
Alors non, en fait, c'est parce qu'on est très dynamique économiquement, en fait. Donc l'emploi, ça se développe parce que les affaires fonctionnent, parce que les entreprises vendéennes, évidemment, travaillent les unes avec les autres et puis vont chasser aussi à l'extérieur ensemble. Voilà, elles se font confiance. Donc évidemment, il y a une croissance économique. Mais évidemment, ça demande de la main-d'œuvre, ça demande des personnes qui viennent s'investir chez nous. Et effectivement, il faut avoir une capacité à accueillir. Et donc l'habitat, pour nous, est un des gros enjeux actuels et à venir.
Et le foncier pour l'entreprise, Valérie, c'est une problématique aujourd'hui ou pas?
Alors c'était effectivement une problématique, mais c'est plutôt une problématique qui est liée à la collectivité, mais on suit ça de près bien évidemment. C'était un axe également de l'enquête économique où sur le panel interrogé, le besoin à 5 ans de foncier, c'est environ 10 hectares sur les Herbiers. Et quand on entend parler de zéro artificialisation, bien évidemment, nous dirigeants, on se pose des questions de se dire bon, comment on va faire déjà pour développer nos activités, parce qu'on a de la croissance, hein, comme vous disiez. Et puis, comment faire pour aussi attirer de nouvelles entreprises, peut-être absentes aujourd'hui sur le territoire des Herbiers?
Comment ça, absentes? C'est-à-dire qu'il y a des sujets qui ont... Et je vous donne la parole après, Christophe Hogard.
Non, pas forcément. Mais aujourd'hui, je sais que la collectivité est sollicitée pour accueillir des nouveaux domaines d'activités qui ne sont pas forcément représentés parce que l'histoire a fait qu'elles n'étaient pas présentes. Maintenant, ceci dit, aujourd'hui, il faut faire le choix. Quand le mètre carré est rare et cher, il faut faire le choix entre le développement interne et puis la croissance externe.
Il faut en prendre un peu au Puy du Fou. il paraît qu'ils en ont beaucoup. Christophe, vous vouliez réagir?
Je voudrais compléter ce que dit Valérie. Et effectivement, je vous ai parlé du problème de l'habitat qui est un enjeu pour nous. Et le deuxième enjeu pour nous, c'est aussi le foncier. En termes d'économie, on a ces 10 dernières années consommé à peu près 120 hectares. Parce qu'on est très dynamique, effectivement, par rapport à peut-être d'autres territoires plus loin en France, ils ont moins la chance de se développer aussi rapidement. Et en fait, l'État nous impose de réduire. Et donc, on est en PLUI, donc en plan local d'urbanisme intercommunal. Et donc, en fait, pour les 10 dernières années, 120, 130, les 10 prochaines, 50.
Et avec le plan de réindustrialisation que nous a annoncé le président Macron, ça peut être une opportunité pour vous ou pas? territorialement.
Ouais, la première des choses pour la réindustrialisation, c'est déjà écouter les entrepreneurs, voilà, leur donner de la liberté.
Ça, c'est fait.
Voilà, et donner de la liberté aux collectivités au lieu de les surcharger comme l'État le fait et a l'habitude de le faire. Donc, la première des choses, c'est d'arriver à respirer. On est tout à fait capable aujourd'hui de reconstruire des filières industrielles. Nous, on a un territoire qui est très industriel. On a 35% à peu près, quand on sait qu'en France, c'est aux alentours de 15%. J'ai plus le chiffre exact, mais c'est ça. En fait, on est deux fois plus industriel que n'importe qui en France. Et effectivement, dans notre écosystème économique, en fait, nos clés de voûte, ce sont les industries. Voilà, très clairement. Et donc, la première des choses, si on veut réindustrialiser la France, effectivement, c'est donner de la liberté financière. C'est aussi prendre en compte le fait qu'il y a des territoires qui sont dynamiques, qui ont besoin de plus de foncier que d'autres. Mmh. Voilà, au lieu d'essayer d'égaliser la France et de mettre du 50% partout. Voilà, nous, très clairement, à un moment donné, alors aujourd'hui, c'est pas trop le cas parce qu'on en a encore un peu sous la pédale, mais d'ici effectivement 5-10 ans, comme dit Valérie, eh bien, nous, on ne pourra plus se développer. Parce que si les contraintes restent les mêmes, avec le zéro artificialisation nette qui nous est imposé petit à petit, eh bien effectivement, on ne pourra plus. En fait, des territoires comme les nôtres, au rythme auquel on se développe, on ne pourra plus rien faire.
Foulard, vous êtes donc président du club d'entreprise. On a parlé un petit peu de l'emploi. Vous avez fait un forum XXL. 30% uniquement des emplois ont pu être pourvus. Comment aujourd'hui les entreprises travaillent-elles collectivement pour aller encore au-delà et permettre à de nouveaux talents de venir travailler sur le territoire?
Alors, est-ce qu'il y a une action collective? Là, je dirais que c'est plutôt chaque entreprise qui travaille avec sa marque employeur. Alors, il y a des opérations. Hein. Aujourd'hui, en parallèle de ce forum XXL, par exemple, je sais qu'en partenariat avec le Pôle emploi, beaucoup de chefs d'entreprise ont travaillé leur CV recruteur.
Mmh. Hein, donc c'est un petit CV
peu,
recruteur.
Ouais, c'est un petit peu le monde à l'envers, mais c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Quoi.
On les a accompagnés pour ça.
Vous les avez accompagnés. Alors justement, c'est ma question, monsieur le maire, comment vous accompagnez les entreprises sur leur déploiement, sur leur problématique, la problématique de foncier, vous venez d'en parler, problématique d'emploi, vous les accompagnez comment, problématique de logement aussi, est-ce que vous avez aussi la capacité aujourd'hui à pouvoir le foncier de l'entreprise, on comprend, est-ce que vous avez aussi du foncier pour pouvoir construire de nouveaux logement, accueillir ?
Alors, il y a deux choses. Il y a les aides directes, effectivement, l'accompagnement direct du développement économique qui repose sur un schéma de développement économique qu'on a partagé justement avec le bureau d'entreprise du pays des Herbiers, afin de pouvoir justement échanger. On a la chance de bien s'entendre, en fait. C'est aussi un peu la clé de la réussite. En fait, les élus, les représentants des chefs d'entreprise et les entreprises sont en fait très proches. Donc, ça fonctionne très vite. Mm-hmm. C'est très fluide. Et surtout, c'est toujours très direct et c'est très bien comme ça. Et donc, on a effectivement un accompagnement qui repose sur de l'aménagement, le foncier, on en a parlé, sur de l'animation. Et notamment de l'animation sur de nouvelles filières comme l'économie circulaire, etc., qui sont des gisements à venir, et puis, enfin, actuels et à venir. Et puis un troisième volet qui est vraiment de l'accompagnement plus personnalisé, le sens du service avec des aides très directes. Ça, c'est pour les aides aux entreprises. Et puis, on a un deuxième sujet qui est celui, évidemment, de... Parce que ce n'est pas nous qui créons la richesse, nous les collectivités. Nous, on est là pour créer les conditions de la création de richesse qui est créée par les entrepreneurs. Et donc, en fait, on est là pour faciliter cette création de richesse, comme d'ailleurs l'État devrait le faire également. Je dis ça au passage.
Et de deux.
Je finirais bien pour en trouver une troisième. Et du coup, en fait, voilà, notre enjeu à nous, c'est de permettre aux salariés des entreprises de pouvoir s'installer durablement chez nous. Donc, on a une politique familiale qui est extrêmement forte chez nous. Et donc, on essaie de privilégier le développement des familles, parce que c'est aussi l'avenir d'avoir des enfants. On ne veut pas un territoire ni qui vieillisse, ni qui soit que jeune.
Il faut pouvoir garder les équilibres, en fait.
Oui, une politique de juste milieu, tout à fait.
Alors, quand on a un mastodonte international comme le Puy du Fou. Alors, non, parce que les mastodontes internationaux, vous en avez d'autres dans des entreprises industrielles, mais qui attirent les regards comme le Puy du Fou. Est-ce que c'est aujourd'hui le premier employeur du territoire?
C'est l'un des premiers employeurs, ah. Ouais, tout à fait. Et on est très fiers, nous, d'avoir le Puy du Fou chez nous. Voilà, la moitié des touristes qui viennent en Vendée pour visiter quelque chose en Vendée, ils viennent pour moitié sur la côte. Et l'autre moitié, c'est au Puy du Fou. Mmh. Donc évidemment, on est aussi une terre touristique. On est une terre où on accueille énormément de familles aussi, parce que c'est aussi, me semble-t-il, la clientèle privilégiée du Puy du Fou. Là aussi, on marche de concert. Et effectivement, la place de l'enfant dans l'accueil touristique, comme dans notre quotidien, est primordiale.
Romain, justement, on va parler de la restauration au Puy du Fou. Comment aujourd'hui, la Puy Follaise de restauration a été créée en 2018, hein, je crois, pour, si je me réfère au dossier de presse, mettre le spectacle dans l'assiette. Mais justement, comment est-ce qu'on arrive à mettre le spectacle dans l'assiette, mais aussi dans la bouche et dans les papilles, en respectant à la fois, j'ai envie de dire, la qualité, les prix et en même temps le tissu économique du territoire?
Déjà, c'est comprendre que la restauration doit être un liant dans l'ensemble de la journée de nos visiteurs. qu'il n'y ait pas de cassure entre deux spectacles, que l'on aille dans une restauration uniquement pour se restaurer et ne pas vivre d'émotions autour de la restauration. C'est un vrai challenge, eu égard à la qualité des spectacles que nous pouvons proposer au Puy du Fou. C'est la promesse pour les visiteurs d'avoir une histoire aussi par rapport à la qualité de l'assiette, que ce soit dans les produits, dans la thématisation, dans l'événementialisation de ce que nous voulons proposer dans l'assiette et dans le restaurant en lui-même. C'est le fait aussi de pouvoir travailler avec beaucoup d'acteurs locaux. Et ça, c'est dire, je rejoins monsieur le maire sur le fait d'avoir en Vendée tout ce qu'il nous faut pour pouvoir proposer une filière courte de qualité et en volume aussi. Parce que ce serait
ça veut dire que vous travaillez avec les producteurs locaux
bien
pour
sûr,
venir
bien sûr, bien
fournir
bien
l'essentiel
et
de ce qu'on va manger.
Peut-être j'aurais beaucoup plus de mal dans d'autres départements, mais en Vendée, j'y arrive. Parce que j'ai à la fois l'ensemble de l'agroalimentaire, de quasiment l'ensemble des produits en Vendée, pas uniquement dans le pays des Herbiers, hein, parce qu'on va aussi à la Criée des Sables-d'Olonne ou à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, mais vous pouvez tout trouver en Vendée, dans des volumes aussi,
qui permettent
ça veut dire quoi, une activité comme
ça. Ça veut dire qu'au-delà de ce qu'on peut manger dans les restaurants, qui peut être produit avec des produits locaux, est-ce que ça veut dire qu'on trouvera au Puy du Fou, du Sodebo, de la Micaline, qui sont des grands acteurs de l'agroalimentaire,
Alors, pour le coup...
Sans se fâcher avec, avec les amis de ces autres entreprises.
Hein. J'ai beaucoup de respect pour ces entreprises. Pour le coup, on ne travaille pas aujourd'hui avec elles. On travaille avec d'autres entreprises. Je peux vous citer, par exemple, la laiterie de Montaigu, qui est une extraordinaire grande entreprise dans le Nord Vendée, mais nous travaillons plutôt avec aussi des petits acteurs. Quand je dis petits, on n'est pas sur des grandes entreprises comme celles que vous venez de citer, mais avec lesquelles on va vraiment échanger humainement sur l'expression d'un besoin. Nous, on a la chance aujourd'hui d'avoir un peu d'expérience et de savoir ce dont nous avons besoin. Donc nous allons vers eux avec un cahier des charges précis de l'expression du besoin, et voir s'ils sont en capacité ou non de nous accompagner.
Christophe Hogard.
Un point important que vient de dire Romain à l'instant, c'est que en fait, le Puy du Fou, par son activité, aide les autres à grandir. Et en fait, c'est la grande leçon de la réussite de la Vendée, c'est ça. C'est-à-dire que les grands aident les petits et tout le monde s'élève comme ça.
Donc, c'est ça l'état d'esprit, l'âme de l'entrepreneuriat à la Vendéenne, c'est qu'en fait, on s'entraide les uns les autres, quelles que soient nos tailles.
C'est exactement ça.
Et bon, au revoir.
Non, c'est exactement ça. Et si on prend l'exemple du Puy du Fou, puisque nous avons quelqu'un autour de la table, le Puy du Fou, c'est 350 millions, approximativement 350 millions de retombées économiques locales. C'est énorme, en fait. Donc, évidemment, c'est des emplois qui sont non délocalisables. Voilà. Et puis, ça tient à cœur du Puy du Fou que ce ne soit pas délocalisé, évidemment, y compris chez les sous-traitants. Donc, c'est extrêmement vertueux.
Valérie Soulard, justement, l'entreprise, l'entrepreneuriat et le Puy du Fou sur un territoire comme celui-là, c'est important de le prendre en compte.
Eh bien évidemment, parce qu'il y a une demande de main-d'œuvre très importante, surtout pendant la saison. Donc aujourd'hui, on est très fiers d'avoir le Puy du Fou, comme le disait Christophe, sur le territoire. Moi, je suis aussi très fier qu'ils appartiennent à l'association des entreprises du Puy des Herbiers en tant qu'adhérents. Et c'est une véritable vitrine. Hein. Alors il y a des chiffres qui circulent, d'un euro investi au Puy du Fou, c'est 6 euros dans l'économie locale, ou 10 parfois, ça dépend sur quel périmètre on parle. Mais en tout cas, c'est une véritable fierté. Et ça pose aussi des difficultés, parce que quand le Puy du Fou lance sa saison et qu'il recrute quelques centaines ou milliers de saisonniers, il faut bien les loger, il faut bien les trouver.
Justement, la question, les saisonniers, ils sont là pour la saison. Est-ce qu'il y a un moyen de fidéliser les saisonniers sur l'année complète, en fait?
Oui.
Et sur d'autres entreprises, qui pourraient avoir des besoins, mais qui sont d'équilibrer, en fait. On fait juin-octobre, et puis après, on va travailler ailleurs sur le Pays des Herbiers.
Déjà, l'activité du Puy du Fou ne s'arrête pas.
Heureusement.
À la Toussaint. Nous avons une activité événementielle qui nous permet de pouvoir travailler tout au long de l'année. Et il ne se passe pas rien l'hiver. Il y a énormément d'activités, justement, pour pouvoir préparer. Bien sûr, nous ne sommes pas dans la même volumétrie d'effectifs qu'au mois de juillet-août, bien sûr. Mais quand bien même, après, c'est notre organisation d'annualisation qui nous permet aussi d'avoir une séquence de travail différente sur l'hiver. Après, vous parliez du nombre de collaborateurs. Nous, pour vous donner un titre d'exemple, l'année dernière, 2022, en restauration, nous avons fait 3200 contrats. Nous avons besoin d'à peu près 600 personnes par jour. C'est vrai que précédemment, les saisonniers avaient plus tendance à faire toute la saison. Aujourd'hui, il est vrai que nous sommes plus dans l'organisation liée à la vie et le quotidien différent, où nous travaillons sur une planification différente. Mais nous sommes pourvoyeurs d'énormément d'emplois dans la région.
Est-ce que ça veut dire, monsieur le maire, aussi que la réflexion de Romain, parce qu'on n'a pas parlé aussi du carré potager, de toute la dynamique de développement durable aujourd'hui sur le territoire, comment elle est prise en compte? Il y a une réflexion, j'ai cru comprendre, sur l'écologie industrielle territoriale, c'est-à-dire aussi se dire ce qu'on fait l'industrie lourde, telle que j'entendais Jean-Dominique Sénard dire, faut arrêter de penser que l'industrie c'est uniquement de la pollution, l'industrie c'est aussi de l'industrie verte, c'est de l'industrie qui recycle, qui rentre dans l'économie circulaire. Vous devez la prendre en compte, vous aussi, Valérie, je pense que c'est des choses qui sont au cœur des problématiques d'entreprise. Vous la prenez en compte dans les politiques de développement économique territorial?
Alors évidemment, c'est au cœur de notre développement du moment. Donc effectivement, Valérie en parlera certainement, parce qu'on a eu une plénière il n'y a pas très longtemps. Ce matin, juste avant de venir, on était ensemble. Encore chez un autre gros chef d'entreprise, des herbiers. Nos industriels se renouvellent tout le temps. En fait, ils ont besoin aussi d'innover. Et l'innovation, elle passe par l'écologie industrielle. Donc évidemment, à l'échelle du territoire, on a quelque chose de plus large encore que l'écologie industrielle. On a un plan climat qui est ambitieux, dans lequel il y a plein d'axes effectivement dans tous les sens. Et en fait, l'écologie industrielle est un des piliers de notre schéma de développement économique, clairement. Donc concrètement, on va accompagner les entreprises pour les aider à renouveler, à faire du réemploi, à recycler, etc. Et donc on a des beaux exemples là-dessus d'ailleurs.
Alors justement, Valérie, comment ça s'incarne dans les entreprises du territoire, cette question du développement durable, cette question de la RSE, cette question de l'écologie industrielle territoriale?
Elle s'intègre effectivement dans le RSE. Vous avez dit les trois lettres qui sont magiques aujourd'hui. Et beaucoup d'entreprises travaillent cette question-là. J'ai un exemple. Christophe disait qu'on était ensemble ce matin. On va citer, c'est le leader français de la fenêtre. Vous l'avez trouvé. Aujourd'hui, ils sont en train de recycler tous leurs déchets d'aluminium pour essayer de en refaire une matière en amont, quoi.
C'est-à-dire, ils vont faire les capsules de Nespresso maintenant.
Ah non, ça repartira dans les fenêtres, je pense.
Ça repartira dans les fenêtres.
Et puis aujourd'hui, chaque entreprise a sa petite touche verte de toute façon. Effectivement, Christophe parlait tout à l'heure d'une plénière qu'on a fait également au mois de mars sur le rapport du GIEC. Donc le comité 21 est intervenu auprès de nos membres. Et l'idée, c'est que pour notre assemblée générale du mois de juin, on puisse proposer...
Un plan d'action ?
Oui, un plan d'action. Alors, pas un plan d'action, mais trois actions simples, à court terme. Hein, parce que changer toute sa flotte en voiture électrique ou mettre du photovoltaïque sur le toit, bon, ça, je pense que tout le monde aujourd'hui a cette stratégie-là. Mais des petites actions à court terme où on voudrait engager nos membres justement sur de l'économie d'énergie, de l'économie d'eau, qui, je pense, sera la prochaine problématique des 10 ans à venir.
On arrive au terme. Oui, Romain.
Non, parce que vous parliez des filières courtes. Et en effet, la filière courte, c'est pour pouvoir faire vivre l'agriculture et l'économie locale, mais c'est aussi pour limiter la taxe carbone, enfin l'empreinte carbone,
oui, parce qu'il y a moins de mobilité, moins de transport, moins
Bien sûr. Le produit ne fait pas le tour de France avant d'arriver dans l'assiette du consommateur et donc de notre visiteur ici. Je vous donne un titre d'exemple. Nous, le produit pomme de terre et le produit pomme de terre préparé par la coopérative des épices, 40 tonnes de pommes de terre qui sont donc cultivées dans un rayon de 15 km. On n'est pas allé les chercher plus loin, et le bœuf à l'équilibre, c'est ça, et les yaourts, c'est ça. C'est vraiment travailler aussi la distance.
En fait, pour l'impact carbone du Puy du Fou, reste plus qu'à avoir une ligne ferroviaire qui arrive directement dans le parc.
Ça, le train, je pense que Nicolas vous en parlera.
Le train qui arrivera, qui pourra partir de la gare des Herbiers pour arriver jusqu'au Puy du Fou, on y pense, monsieur le maire?
Ce matin, nous étions avec le vice-président de la région, en charge notamment des transports, et c'est effectivement un sujet sur lequel nous travaillons avec la région, avec le département, avec les collectivités Cholet, Mortagne, évidemment, le Pays d'Herbiers et le Puy du Fou.
Et puis j'imagine tout à fait la tête du train, ce serait un peu comme dans Harry Potter, on aura l'impression d'embarquer dès la gare SNCF, et ce sera mieux encore. Mais le Puy du Fou, c'est toujours mieux encore, et c'est vrai en plus. Valérie, vous vouliez réagir, et puis on arrive au terme de notre échange.
C'était juste un dernier exemple, mais qui date aussi de ce matin. La collectivité et l'ensemble des entreprises ont choisi aujourd'hui de s'inscrire dans une plateforme de covoiturage.
Ah oui.
Donc je ne cite pas la marque, mais en fait on a tous choisi la même. Pour essayer d'avoir
Elle n'était pas d'origine vendéenne, cette marque-là, au départ?
Elle a été rachetée par une entreprise d'entreprise. Elle vient d'être rachetée par une boîte
vendéenne.
Et je
peux vous dire, c'est quelque chose qui fonctionne très bien.
Quelque chose qui fonctionne très bien. RCF fête ses 40 ans. Son slogan, c'est la joie de partage. La joie se partage. Et je vais juste poser une question pour terminer notre échange. Qu'est-ce qui vous met en joie, Valérie?
Entreprendre.
Christophe?
Fédérer.
Et pour vous, Romain?
Les émotions.
Les émotions. Et pour vous, Romain, les émotions. Merci à tous les trois d'avoir été les invités du dossier de l'écho des solutions. Nous, on continue tout de suite avec Maxime Dupont pour sa chronique, un max d'écho.
Maxime Dupont.
Et on retrouve donc Maxime Dupont. Bonjour Maxime.
Bonjour Patrick.
Alors aujourd'hui, on va évoquer quelque chose qui tourne autour d'une question fortement gauloise. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le paradoxe français.
Oui, Patrick, un certain nombre d'études le montrent. La France est l'un des pays les plus égalitaires qui soit, en ligne avec l'ambition d'un modèle social qui remonte loin dans notre histoire. Nous sommes envers et contre tous le pays où le modèle, ou l'un des pays où le modèle de société est sur le papier le plus ambitieux, l'un des pays où la redistribution des richesses fonctionne le mieux, où les services publics compensent le mieux les différences de revenus entre les uns et les autres, où l'égalité des chances et la citoyenneté sont promues comme dans très peu d'endroits. La mesure des inégalités en France montre d'ailleurs qu'elles sont mieux corrigées que pendant les 30 glorieuses, que nous avons une espérance de vie parmi les plus hautes du monde, avec un taux de pauvreté des plus âgés parmi les plus bas du monde. Et pourtant, nous sommes l'un des pays qui supporte le moins les inégalités. L'un des pays, sinon le pays, le plus prompt à s'enflammer sur ces sujets-là. C'est ce que j'appelle le paradoxe français. L'un des derniers pays qui semble refuser de se résigner à ce qui semble être, hélas, consubstantiel à toute forme de société, l'existence et la persistance d'inégalités fortes. Vu de l'étranger, les différents articles parus récemment dans The Economist et The Guardian le montrent d'ailleurs, cette situation semble très peu compréhensible. Les étrangers ont beaucoup de mal à comprendre pourquoi nous ne sommes pas un peu plus conscients de la chance que nous avons et pourquoi nous avons, et pourtant, nous avons beaucoup de raisons très légitimes de nous révolter devant nombre d'injustices.
Alors que penser justement de ce paradoxe, Maxime ?
Eh bien d'abord qu'il s'exprime en une expression 100% française. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Ensuite, que ce paradoxe nous empêche sûrement souvent de regarder les choses avec un peu plus de recul, un peu plus de clairvoyance, un peu plus de sérénité aussi. Mais enfin, et surtout, que ce paradoxe ne l'est qu'en apparence. C'est parce que nous avons maintenu ce niveau d'ambition pour une société équitable que nous nous froissons de chaque coup de canif dans le contrat social. Si nos attentes étaient moins hautes, sans doute contesterions-nous moins. Alors, je me dis que dans les débats permanent qui agite notre société, que ce paradoxe est en fait un signe de vitalité démocratique et d'espérance sociale. Je l'aime bien, moi, ce paradoxe. Je le trouve nécessaire même. Il est celui qui nous permet de ne pas baisser la garde, qui nous oblige à conserver un haut niveau d'exigence sociale pour notre pays, qui semble montrer que les utopies peuvent toujours jouer un rôle et que ce qui compte au fond, sûrement plus que d'arriver à destination, c'est sans doute de toujours y croire. Et je me dis d'ailleurs que le prochain débat qui s'ouvre va être un nouveau révélateur de notre passion sur le sujet. C'est le débat des écoles. Comment relancer le chantier de l'école qui fonctionne très mal, qui reproduit beaucoup trop les inégalités aujourd'hui, sans ne mettre à contribution que le secteur public, ce qui semble s'installer. Voilà le prochain débat, les prochains moments de passion.
Merci beaucoup Maxime Dupont, on vous a senti passionné. Nous, on continue l'émission avec nos 7 minutes pour changer le monde. On retrouve Jean-Luc Charpentier qui va nous parler de l'outil en main des herbiers.
7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions.
Voilà, je suis avec Jean-Luc Charpentier qui est président de l'outil en main des herbiers. On pousse les tasses sur la table qui nous est attribuée puisque nous sommes au Puy du Fou depuis le début de cette émission dans le centre des congrès, le théâtre Molière très exactement. Jean-Luc Charpentier, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes président de l'association L'Outil en Main, une association qu'on connaît bien sur le réseau RCF, d'abord parce que beaucoup de locales vous font intervenir, parce qu'on a souvent parlé dans l'écho des solutions de cette association qu'on aime tant, cette association qui, aux Herbiers, fête ses 10 ans d'existence aux Herbiers.
Alors nous allons fêter nos 10 ans le 23 juin, oui, puisque l'aventure a commencé en 2013.
Alors qu'est-ce qui va se passer le 23 juin pour fêter ses 10 ans, Jean-Luc ?
Oh, très simplement, nous allons accueillir bien sûr tous nos bénévoles, ceux qui sont aujourd'hui, qui nous ont rejoints, puisque nous sommes 82 bénévoles aujourd'hui. Quelques-uns nous ont quittés très peu, puisque ça se résume à 3 ou 4. Malheureusement, nous avons eu aussi des compagnons qui ont décédé. Et là, c'est un peu moins drôle, mais bon, toutes ces familles-là vont se retrouver, bien sûr. Mais plus précisément...
Et tous les anciens jeunes qui alors, sont devenus adultes.
Voilà, donc nous tenons à rencontrer et on va dire regarder un peu dans le rétroviseur pour faire le bilan de ces 10 années passées avec des enfants qui aujourd'hui ont tous à peu près 20 ans.
Ouais.
Et donc connaître leurs itinéraires et en quoi l'outil en main a servi ou pas à leur projet.
On redit un petit peu ce qu'est l'outil en main. L'outil en main, c'est une association qui aujourd'hui fleurit en France, hein, plus de 200 ou 300
250
associations à travers toute la France, avec cette idée finalement assez simple, des anciens artisans arrivés à la retraite qui ont, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui sont encore en activité, qui sont des gens de métier, comme vous dites chez vous, ces gens de métier ont envie de transmettre leur savoir-faire, leur amour du travail à des plus jeunes. L'idée, c'est pas d'être un centre d'apprentissage, non, c'est juste se dire on veut transmettre notre passion et on passe dans des ateliers tous les mercredis après-midi entre 14h et 16h. Voilà, c'est ça l'outil en main en fait.
Le principe c'est ça, oui. Accueillir ces enfants pendant le rythme scolaire, donc tous les mercredis après-midi, pendant 2 heures, et leur transmettre non pas un métier, mais en tout cas un savoir-faire, un savoir-être à travers l'échange que procure l'outil. Mmh. Et la matière.
Alors le territoire des Herbiers est un territoire riche, hein, on l'a entendu pendant toute cette émission. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous a interpellé dans ce qui a été dit et qui va finalement dans l'esprit de votre association, qu'est l'outil en main ?
Oh bah, on se reconnaît tout à fait dans cette démarche. Et Valérie l'a évoqué tout à l'heure, l'association d'entreprises du Pays des Herbiers a bien compris qu'en nous accompagnant, ils avaient aussi tout intérêt à être présents parmi nous et nous soutenir, puisque nous, un certain nombre d'entreprises nous accompagnent, nous aident dans l'échange de matières premières, par exemple.
Et oui, parce qu'il faut de la matière première pour animer les ateliers.
Il nous faut de la matière, et donc ces entreprises-là vont nous donner du cuivre,
du bois,
etc.
De la tuyauterie, un moteur.
Un moteur, éventuellement. Donc nous, on a un vrai partenariat avec ces entreprises du territoire. Et ils l'ont bien compris, nous sommes, comme on aime l'évoquer, la maternelle des métiers.
La maternelle des métiers, c'est un joli petit mot
que j'ai trouvé intéressant, il y a quelques temps. Puisque, en tout cas, les représentants qui viennent nous voir de ces entreprises ont bien compris que ces enfants qui sont dans nos ateliers, 30%, parce que ce sont les chiffres officiels qui nous sont donnés par l'Union nationale, 30% de ces enfants se retrouveront un jour dans les entreprises artisanales secteur.
C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous savez aujourd'hui, vous, après 10 ans de vie associative aux Herbiers, combien de pourcentage ? Est-ce qu'on est dans ce pourcentage de 30% aujourd'hui ?
On est aujourd'hui sur un tiers, donc on sait déjà, un certain nombre d'enfants nous ont répondu, qui viendront bien sûr témoigner dans un mois à notre manifestation des 10 ans et nous dire comment cet itinéraire, enfin ce début de parcours professionnel à l'outil en main
leur a permis de préciser
leur itinéraire professionnel.
De préciser leur itinéraire professionnel. Et les 70%, qu'est-ce qu'ils disent d'avoir reçu de l'outil en main, même si aujourd'hui ils ne travaillent pas dans un secteur de l'artisanat ?
Alors, on a moins de recul sur ça pour l'instant, mais
on va y travailler.
Alors on attend, parce qu'on a envoyé un questionnaire à nos près de 300 enfants côtoyés depuis 10 ans à l'outil en main. On attend un retour de questionnaire, mais ceux qui ont quitté, bien sûr, l'outil en main sans avoir de projet d'avenir professionnel, en tout cas en lien avec les métiers manuels, tous disent qu'ils ont apprécié en tout cas la création et l'échange qu'ils ont pu avoir avec des bénévoles de notre génération. Donc l'intergénérationnel fonctionne beaucoup. Et puis, pour les parents en tout cas, c'était surtout l'occasion d'abandonner le smartphone, la tablette, le portable pendant 2 heures. Et nous, on peut constater et affirmer, on en est témoin nous tous les mercredis, que les enfants pendant 2 heures ne se posent même pas la question d'aller sur leurs réseaux sociaux.
Voilà, et puis bien évidemment, si vous voulez aller à l'outil en main, vous regardez sur le site internet de l'outil en main France, vous trouverez tous les outils en main de France pour peut-être y inscrire vos enfants. Merci beaucoup Jean-Luc Charpentier d'avoir été notre invité éco de cette semaine. Il est temps pour nous de quitter le Puy du Fou pour mieux se retrouver la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes de podcast et sur rcf.fr. À très bientôt, au revoir.